Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Face à face, Maroc, Portugal, samedi après-midi pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Retour dans votre édition sur cette victoire des Lions de l'Atlas mardi soir face à l'Espagne avec Mohamed Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma. Le vaste mouvement de contestation en Iran ce mercredi est marqué par la mobilisation des étudiants. Notre invité sera David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique. Un coup dur pour le budget des Franciliens qui prennent les transports en commun. Le prix du pass Navigo passera de 75,20€ à 84,10€ par mois dès le 1er janvier prochain. Après 5 nuits passées devant le Conseil d'État à Paris, 300 jeunes exilés qui se présentent comme mineurs ont été mis à l'abri. Un colloque aura lieu ce jeudi à 18h30 autour de l'achat ou de la possession de biens immobiliers au Liban. Rencontre organisée par la Chambre de commerce franco-libanaise et la Chambre des notaires de Paris. Nous écouterons Antoine Leroux, notaire à Paris, expert du Liban. L'équipe marocaine de football est entrée dans l'histoire mardi soir. Une victoire au tir au but 3-0 qui lui permet de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas deviennent la quatrième équipe africaine à atteindre ce stade après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Les Marocains tenteront samedi prochain à 16h de se qualifier pour les demi-finales. Un match contre le Portugal qui a battu la Suisse 6-1 mardi soir. Mohamed Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma, revient sur ce succès historique des Lions de l'Atlas.
On avait certes un petit espoir, vu l'état d'esprit des joueurs, mais quand même, on jouait devant une équipe qui domine, qui possède le ballon, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a joué beaucoup de matchs cette année à travers la Ligue des Nations, à travers FC Barcelone, parce que la plupart des joueurs jouent au Barça et donc jouent chaque semaine au Barça, ils ont plus de cohésion, plus d'habitude à jouer ensemble. Il y avait un état d'esprit de combativité, de calme, de concentration, de discipline tactique qui a favorisé la victoire du Maroc.
Dans quel état d'esprit aujourd'hui les joueurs sont-ils avant la rencontre face au Portugal samedi prochain ?
Le Maroc aujourd'hui n'a plus rien à perdre. Il a tout à gagner. Je pense que côté esprit, côté mental, le Maroc aura un ascendant par rapport au Portugal. Hein. Les Portugais attendent de leur équipe un titre. Au Maroc, non. Pour les Marocains, c'est déjà gagné, c'est déjà un grand exploit. Et donc, on sera beaucoup plus relâché, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein devant le Portugal samedi. Et donc, c'est un autre avantage. On doit capitaliser dessus. On doit disputer ce match avec le même état d'esprit, la même discipline, la même intelligence dont on a fait preuve.
Et comment vous pouvez qualifier l'ambiance au Maroc après le résultat, après cette qualification?
Même aujourd'hui, ce matin au bureau, je vous parle depuis les locaux de 2M, tout le monde est encore euphorique. C'est inédit, c'est sans précédent. Le seul référentiel qu'avaient les Marocains sur leur équipe nationale par rapport à la Coupe du Monde, c'est 1986, Mexico. Bah, désormais, notre génération a son référentiel avec les quarts de finale de 2022, une date qui restera longtemps, très longtemps dans les annales du foot marocain. Après, peut-être qu'elle sera vite effacée par un bon résultat samedi. Voilà, donc je l'espère.
Mohamed Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma. La contestation perdure en Iran. Le pays a vécu son troisième jour de grève générale d'affilée. Le vaste mouvement a été déclenché par la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs. L'annonce dimanche du procureur général de l'abolition de cette police n'a pas été concrétisée. Nous y revenons avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique. David Rigoulet-Rose.
Il y a une persistance de la contestation sur les trois derniers mois. Et effectivement, il y a des effets d'annonce un peu sous forme de ballon d'essai, probablement. Vous évoquez l'annonce faite par Mohamed Jafar Montaziri, qui est le procureur général de la justice révolutionnaire, qui avait répondu en fait une question qui lui avait été formulée dans le cadre d'un séminaire religieux à Qom, qui est la grande ville religieuse. Il avait effectivement considéré que la police religieuse, Gasht et Ershad, qui avait été mise en place en 2005, avait été aboli par ceux qui l'avaient créé. Alors c'était une formule quand même très sibylline. ambigu. Il avait quand même tenu à préciser immédiatement que la police des mineurs n'avait rien à voir avec le pouvoir judiciaire, ce qui était un peu surprenant, et que bien évidemment le pouvoir judiciaire continuait à surveiller les comportements inappropriés au niveau de la société, sous-entendu le port inconvenant du voile. Donc c'est dire que cette annonce était quand même sujette à caution. D'ailleurs, elle n'a pas fait l'objet d'une confirmation officielle par le gouvernement. Et on peut rappeler que la police des mineurs en question, elle a été établie par le Conseil suprême de la révolution culturelle, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement. Du reste, dans le prolongement de cette déclaration faite samedi dernier, il n'y a pas eu de confirmation, justement. Simplement, il y a eu l'évocation d'un examen, d'une réflexion faite sur le port du voile par le Parlement, le Bagis et le pouvoir judiciaire, qui rendrait ses conclusions, entre guillemets, sous quinzaine. Donc une manière de gagner du temps au regard de la situation qui s'accélère, puisqu'il y a 3 journées de grève qui ont été programmées, en sachant que celle de mercredi est la journée de l'étudiant. Donc c'est une journée particulièrement sensible, scrutée évidemment par tous les observateurs.
Pouvez-vous nous faire part du rôle joué par les étudiants durant ce mouvement de contestation ?
Initialement, le mouvement est parti d'une tragédie personnelle, celle de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police des mœurs et qui était morte dans des conditions plus que troubles, évidemment. Et donc ça avait alimenté immédiatement des réactions de la jeunesse féminine, qui d'ailleurs avait été très très rapidement suivie, soutenue par la jeunesse masculine. Il faut rappeler que la plupart de la population iranienne est très jeune. Elle n'a connu que le régime de la République islamique, et c'est le paradoxe, puisque justement elle appelle aujourd'hui à son renversement. Et par la suite, évidemment, le mouvement a pris de l'ampleur au fil des semaines. Il a été alimenté notamment par justement les grandes universités iraniennes, celles de Téhéran et d'autres. Donc il y a effectivement la jeunesse étudiantine, voire le public scolaire secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, ont participé activement effectivement à la contestation, amplifié cette contestation avec le soutien tacite de leurs parents, sinon de leurs grands-parents. Et donc c'est assez inédit comme situation effectivement, et on sait combien la question des jeunes, de la jeunesse en général et des étudiants en particulier, est une question pour tout gouvernement, quel que soit le pays d'ailleurs considéré, et est un sujet éminemment sensible. Il l'est plus encore en Iran qu'ailleurs, compte tenu du contexte qui prévaut.
Les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes qui manifestent, ça c'est un point important aussi.
Oui, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, même si la dynamique initiale a été lancée par les jeunes filles, les femmes, elle a bénéficié d'un soutien très rapidement de la gente masculine. C'est très intéressant parce que ça prouve qu'effectivement il y a, on va dire, un consensus, à défaut d'unanimité, sur les revendications qui sont formulées, alors qu'initialement était pointée la question du port obligatoire du voile, mais au-delà de cette question spécifique, ce sont les fondements de la République islamique qui sont posés, parce que le port du voile est dans l'ADN de cette République islamique. Il est inconcevable pour le Nézam, le système de la République islamique, de se penser en dehors du voile obligatoire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la revendication déborde, si j'ose dire, cette question strictement spécifique du voile pour remettre en cause les fondements généraux de cette République islamique qui repose essentiellement sur la primauté du religieux sur le politique et l'incarnation de ce fonctionnement. C'est le guide suprême, Ali Khamenei, qui a succédé à l'ayatollah Khomeini et qui incarne effectivement cette prééminence du religieux sur le politique, ce dont ne veut plus cette jeunesse, justement.
Les fondements dont vous parlez sont-ils ébranlés par ce mouvement ?
Il y a incontestablement un doute qui étreint en ce moment les cercles du pouvoir. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait eu des mouvements de contestation, comme en 2017-2018, 2018-2019, il y avait des causes spécifiques, c'est-à-dire par exemple l'augmentation de l'essence, qui touchait tout particulièrement les classes défavorisées. Ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une répression féroce. Beaucoup plus loin, en 2009, c'était les classes moyennes qui étaient mobilisées parce qu'il y avait un trucage des élections au profit du président ultra-radical Mahmoud Ahmadinejad. Là, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a une onde de choc sociétale, en fait. Et c'est vrai que le pouvoir n'est pas préparé à ce type de situation parce que son logiciel prévoit la répression, exclusivement la répression, et il n'est pas en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer, notamment les revendications de cette jeunesse dont il est totalement déconnecté. C'est-à-dire, c'est une jeunesse qui est, elle, pour le coup, connectée aux réseaux sociaux. C'est cette génération Z, qui est très familière des réseaux sociaux, d'Internet, qui est éduquée, et qui ne supporte plus qu'on lui impose des prescriptions religieuse qui, pour elle, renvoie au Moyen-Âge. Et donc, du point de vue des cercles dirigeants, il y a effectivement un débat feutré parce qu'il y a une incapacité à répondre à la dynamique à l'œuvre. Et il y a probablement des tensions qui ne sont pas publiques, mais qui traversent les cercles du pouvoir dans la mesure où c'est un mouvement qui dure. Et qui ne faiblit pas.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique. La Compagnie Libyenne Nationale de Pétrole appelle les entreprises étrangères actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leurs opérations d'exploration et de production. Elle met en avant, dit-elle, une amélioration de la situation sécuritaire. La Libye, qui a été régulièrement en proie à des affrontements violents entre factions rivales de l'Est et de l'Ouest du pays, une situation qui a affecté l'exploitation des gisements, le transport des hydrocarbures et les terminaux pétroliers. Après 5 nuits passées devant le Conseil d'État à Paris, 300 jeunes exilés qui se présentent comme mineurs ont été mis à l'abri. La majorité de ces jeunes gens a été accompagnée vers des gymnases d'Île-de-France. Les personnes en cours de demande d'asile ont, elles, été orientées vers un centre d'accueil et d'évaluation à Libourne, en Gironde. Le procès de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, l'accusation demande entre 2 et 15 ans d'emprisonnement contre les 8 accusés, des personnes accusées d'avoir contribué à des degrés divers à cette attaque qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Ce sera ce jeudi à 18h30, un colloque autour de l'achat ou de la possession de biens immobiliers au Liban. Une rencontre organisée par la Chambre de commerce franco-libanaise et la Chambre des notaires de Paris. Entretien avec Antoine Leroux, notaire à Paris, expert du Liban.
L'origine du colloque, c'est que la Chambre des notaires de Paris et depuis cette année, membre de la Chambre de commerce franco-libanaise. Et donc l'idée de ce colloque, c'était d'avoir un événement organisé en commun entre la Chambre des notaires de Paris et la Chambre de commerce franco-libanaise, et ce qui nous permettait, en fait, nous, de matérialiser notre implication auprès, du coup, de la Chambre de commerce franco-libanaise. On a réfléchi à ce qui pouvait intéresser et concerner les Libanais. Et puis, les questions des clients, de mes clients, s'orientaient dernièrement sur la question vraiment de la détention d'un bien immobilier situé au Liban. Ils étaient assez en demande de réponses, notamment en matière de vente d'un bien situé au Liban. Et du coup, on a décidé d'orienter notre colloque sur cette thématique-là. On n'a pas souhaité uniquement se focaliser sur la vente d'un bien immobilier au Liban. On a souhaité l'élargir à la détention d'un bien immobilier situé au Liban. Et c'est pour ça que le thème qu'on a adopté, c'est être propriétaire au Liban, avec cette question, est-ce qu'aujourd'hui c'est une valeur sûre ou bien est-ce que ça peut être un casse-tête ? La première question, ça va être l'héritage d'un bien qui est situé au Liban, j'hérite d'un bien situé au Liban, qu'est-ce que je dois faire? Je souhaite vendre, deuxième sous-thème, c'est je souhaite vendre un bien immobilier au Liban, c'est comment je dois m'y prendre, notamment si je suis en France, comment je dois faire? Aujourd'hui, on a un vrai casse-tête, pour le coup, bancaire, avec le blocage des comptes au Liban. Comment puis-je, du coup, organiser la vente d'un bien immobilier avec des banques qui bloquent les comptes? Donc on va répondre à cette question-là de manière très pragmatique, très précise, en donnant un processus de vente. On fait appel notamment à un notaire libanais sur cette question-là et sur un aspect bancaire, puisqu'il y a la question du transfert des fonds. Donc on aura également la vision d'une banque, mais côté banque française, c'est-à-dire j'habite en France, comment je peux faire venir des fonds de l'étranger vers la France.
Alors vous avez parlé de la crise du secteur bancaire, mais le Liban est confronté à de multiples crises. De quelle manière ces crises multiples ont-elles des incidences sur le secteur de l'immobilier au Liban ?
Il est certain qu'aujourd'hui la crise politique et financière bancaire affecte les Libanais dans la circulation notamment des échanges monétaires. Et lorsque l'on a à vendre un bien immobilier, on doit s'assurer aussi des transferts de fonds. On va répondre à la question de comment je peux faire transiter des fonds à l'occasion d'une vente immobilière qui est situé au Liban, bien sûr, le tout dans un cadre totalement légal d'un point de vue réglementaire français. Et vous savez que la réglementation française en matière de transfert de capitaux est très très rigoureuse. Il y a toute la réglementation TRACFIN sur les flux financiers. Et donc, il ne s'agit pas de proposer une solution qui soit, on va dire, borderline, mais c'est de proposer une solution qui soit légale au sens juridique libanais du terme pour une vente et qui soit réglementairement compatible avec la législation du code monétaire et financier.
D'un point de vue fiscal, est-ce qu'il faut que les franco-libanais qui vivent en France déclarent au fisc français les biens qu'ils possèdent au Liban ?
C'est également une des questions qui est abordée par ce colloque. Justement, lorsque l'on hérite d'un bien situé au Liban, on va aborder les formalités, notamment les formalités fiscales à faire en France. Il y a toute la question de la domiciliation fiscale qui va être importante. Et puis, on va aborder, c'est le troisième sous-thème, toutes les questions, notamment d'IFI. Lorsque l'on est résident fiscal en France, il faut savoir qu'il y a l'impôt sur la fortune immobilière qui existe. Et donc, on va aborder, bien sûr, le périmètre de cet impôt et toutes les problématiques de résidence fiscale, de définition de la résidence fiscale, les problématiques... notamment de valorisation d'un actif immobilier qui est au Liban.
Antoine Leroux, notaire à Paris, expert du Liban. Ce colloque est intitulé « Être propriétaire au Liban, valeur sûre ou casse-tête ». Il a lieu ce jeudi à 18h30 à l'Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis avenue Diéna à Paris, dans le 16e arrondissement. Antoine Leroux répondait à Loïc Barrière. C'est un coup dur pour le budget des Franciliens qui prennent les transports en commun. Le prix du pass Navigo passera de 75,20 € à 84,10 € par mois. Dès le 1er janvier prochain, le ticket à l'unité augmentera lui aussi, passant de 1,90 € à 2,10 €. Idem pour le carnet de 10 titres, dont le prix s'élèvera à 19,10 €, une augmentation de 13%. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Gabrielle Siri-Wari, maire adjointe du 18e arrondissement de Paris, autrice de La République des Hommes aux éditions Bouquin et porte-parole du Parti Socialiste. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.